Quand on parle de dépendance numérique pour les entreprises, on a souvent tendance à penser à la souveraineté numérique et la dépendance vis-à-vis des États-Unis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs facteurs de risque et parfois bien plus importants et dangereux que la simple souveraineté numérique extraterritoriale. Dans cette vidéo, j'ai décidé de lister un petit peu les 4 facteurs, les 4 surfaces d'exposition auxquelles les entreprises s'exposent vis-à-vis de leur indépendance numérique. Et surtout, on verra à la fin les solutions qui existent. Alors, premier facteur de risque, c'est le facteur commercial. Ensuite, on verra le facteur technologique, contractuel et souverain. Et la souveraineté, comme je le disais en intro, c'est pas forcément le plus risqué, donc on le mettra à la fin. Et bien entendu, on parlera des solutions et quelques pièges à éviter aussi, vous verrez. Donc le premier point, c'est la dépendance commerciale. Vous verrez que dans cette vidéo, je vais prendre des cas concrets de choses qui sont arrivées à des entreprises pour étayer un petit peu le risque auquel on s'expose. Ça ne veut pas dire qu'il faut juger ces éditeurs-là, ça ne veut pas dire que ce sont les seuls à avoir fait vivre ça à leurs clients, ce sont juste des exemples. Et donc dans ce premier facteur de risque, on va englober deux choses, les augmentations de prix arbitraires et très importantes quasiment du jour au lendemain, et les arrêts de logiciels, les arrêts de maintenance, les arrêts d'utilisation de la part des éditeurs. En gros, l'idée c'est quoi? Vous faites le choix d'un logiciel dans votre entreprise, du jour au lendemain, il fait x300 sur les prix, ou alors il annonce carrément que le logiciel de la gamme que vous avez choisi s'arrête. Pour étayer mon propos, je vous prends comme exemple la société Silae qui développe un logiciel de paye majoritairement utilisé par des experts comptables qui a fait une augmentation de x300. Et là, la zone de risque était assez élevé pour les experts comptables parce que ils utilisaient certes le logiciel pour eux, mais aussi vis-à-vis des clients. Donc quand il y a une augmentation de prix de cette sorte qui se passe, eh bien ça remet en cause entièrement la rentabilité de chaque client et de chaque projet. Donc quand on mesure aussi la dépendance commerciale, il faut le ramener aussi avec l'importance qu'a le logiciel dans le poids de tout l'écosystème logiciel qu'on a dans l'entreprise. Deuxième exemple, Sage, malheureusement abonné à ce genre de pratique, a arrêté plusieurs fois dans son histoire des gammes entières de logiciels. Ça remonte un petit peu, mais certains s'en souviendront. Sage 500, Sage Modulaire qui a été remplacé par Sage 100, ensuite i7 qui a été arrêté au profit de Sage 100C, ils ont arrêté complètement SIRH. Voilà, donc là, ils annoncent à l'avance que vous allez devoir changer. Bien sûr, ils vous coupent pas du jour au lendemain, mais quand vous avez passé 6 mois à le déployer, 2 ans à intégrer le logiciel, que les équipes commencent à être rodées, etc., et que vous êtes contraint de changer de logiciel alors que vous en êtes content, c'est aussi une grosse zone de risque. Et j'ai pris cet exemple-là d'un logiciel un peu moins connu, mais d'un cas qui me concerne particulièrement, du logiciel MyPortal que j'utilisais dans une précédente boîte, qui a été aussi discontinué, et donc il fallait trouver des solutions, parfois inexistantes, on gérait tout dessus, etc. Donc il faut le savoir, il faut le prendre en compte, hein. D'ailleurs je fais une petite parenthèse ici, hein. Ça va peut-être être un peu anxiogène au début. Ce que je veux juste dans cette vidéo, c'est expliquer les facteurs d'exposition, les zones de risque, pas forcément d'alarmer pour que vous changiez du jour au lendemain de façon précipitée. Hein, il faut ensuite positionner le curseur de notre zone de tolérance, ce qu'on est prêt à accepter ou non. On pourra accepter peut-être de la dépendance commerciale parce que c'est le jeu, on pourra accepter de la dépendance peut-être contractuelle parce que c'est le jeu aussi. Chacun pose son curseur. On n'est pas là pour juger, simplement expliquer, faire prendre conscience aux gens que ces zones de risque existent parce que parfois elles sont méconnues. Deuxième chose, il s'agit ici de la dépendance technologique. Il y a de plus en plus d'outils qui font tout dans une entreprise, qui répondent à plusieurs usages au point même qu'il en devient difficile de les quitter. Si vous avez un outil dans lequel vous gérez votre facturation, vos contrats clients, vos prélèvements, votre facturation électronique, votre TPE pour payer les clients de passage, votre suivi de trésorerie, vous avez donné votre RIB à tout le monde et que vous décidez un jour d'en changer, rien ne vous empêche de le faire, et encore heureux. Par contre, vous réfléchirez à deux fois devant la complexité de la tâche. Parfois, même les formats que vous pourrez récupérer de l'ancien logiciel ne seront pas compatibles avec le nouveau, où il y aura une espèce de rétention d'informations. Alors, je ne dis pas que c'est le cas des sociétés qui s'affichent à l'écran. Ici, c'est juste des exemples de super logiciels qui font tout. Et attention, hein, ces logiciels n'empêchent pas de changer, ils fournissent des formats, etc. Ce n'est pas ça le problème. Non, le problème, il est induit, c'est-à-dire que parce que vous avez mis trop d'usages à l'intérieur d'un seul et même outil, ça crée une dépendance avec cet éditeur-là. Et ça rejoint derrière le premier risque. Une fois que la dépendance est créée ici avec certains éditeurs, quand vous avez mis par exemple tout votre portefeuille client sur Silae pour faire leur paye, eh bien derrière, si vous avez une société qui fait des changements commerciaux forts, eh bien même si ces changements ne vous plaisent pas, la dépendance technologique derrière vient vous empêcher de changer. Même quand il y a eu des x300 de la part d'un éditeur, qui est peut-être revenu derrière sur les augmentations, j'avais pas suivi tout l'exemple, parce qu'il y a eu une levée de bouclier, etc., mais vous avez des éditeurs qui reviennent pas sur ce genre d'évolution, eh bien, même quand vous avez des choses qui commercialement sont dangereuses, que vous ne souhaitez pas accepter, vous ne pouvez plus changer si facilement que ça. Donc il faut aussi mesurer son exposition au risque technologique après avoir mesuré son exposition au risque commercial, les deux se faisant un petit peu rebond, si on veut. Ensuite, vous avez un troisième risque. Et là, vous allez voir, vous allez me dire, mais attends, c'est fou ça. La dépendance contractuelle. Vous vous réveillez un matin, votre site Shopify a été arrêté. Votre compte Stripe a été bloqué, votre compte Revolut n'est plus accessible. Parfois, on vous donne des raisons, vous n'avez pas respecté les conditions générales d'utilisation, et dans ce cas-là, effectivement, eh ben, vous ne pouvez, entre guillemets, vous en prendre qu'à vous-même parce que vous n'avez pas respecté. On aurait peut-être aimé qu'on nous prévienne un peu avant, peut-être que les gens qui ont subi ça auraient aimé qu'on les prévienne un petit peu avant, qu'on leur propose des solutions, qu'on leur demande de se régulariser sous 60 jours. Souvent, vous arrivez un matin, c'est coupé, en fait, hein, tout simplement. Et parfois, on vous donne même pas de raison, valable, pas valable, en fait. Vous n'en savez rien, parce que sur les conditions générales d'utilisation de ces services-là, il y a des petites mentions qui vous disent « on peut vous couper les accès de façon arbitraire sans vous donner de raison ». Et c'est arrivé à plein de cas, c'est arrivé, il suffit d'aller traîner sur Reddit pour voir les comptes suspendus de Revolut, les comptes suspendus Stripe, les comptes suspendus Shopify. J'ai un exemple d'un YouTuber que je suis, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Ici Japon Corp, qui avait une boutique en ligne sur Shopify et qui vendait des cartes Pokémon avec des droits Dragon Ball, etc. Les licences n'étaient pas les mêmes en fonction des pays. Bon, bah, Shopify, dans le doute, a coupé. Pas eu de décision juridique, il n'y a pas eu une entité légale qui a dit « bah non, c'est pas légal », il n'y a pas eu de procès commercial, que sais-je. Il y a juste Shopify, dans le doute, a dit « bah on coupe ». Et donc, ils ont dû trouver des solutions différentes. Donc, il faut aussi mesurer ça. Alors, on n'a rien à se reprocher, on le dit toujours. Parfois, on ne le sait même pas, même si on essaye de respecter les règles, etc. On peut avoir une petite mention, quelque chose qui déplaît, ou parfois même des choix un peu arbitraires, dont on ne parlera pas ici parce qu'ils n'ont pas été avérés, mais des gens qui se voient couper leur accès bancaire parce qu'ils ont critiqué certaines choses qui se sont passées. Encore une fois, attention à prendre avec des pincettes, pas tomber dans ce genre de choses, mais ça peut arriver qu'ils ne vous donnent pas de raison. Et c'est légal, on peut vous couper l'accès parce que dans les conditions générales, il y a écrit que bah, l'accès peut être coupé. Donc c'est la dépendance contractuelle. Ensuite vient un autre type de dépendance, celui-ci qui est celui qu'on connaît le plus, mais qu'il va falloir répéter et il va falloir se prémunir de certains pièges que j'ai cachés derrière cette petite carte dont je vous parlerai après, qui est la dépendance extraterritoriale. Ici, Google Cloud Platform, Amazon AWS, Microsoft Azure. On ne se rend pas compte à quel point les logiciels français qu'on utilise ou européens tournent derrière ces solutions-là. Il suffit, moi j'ai créé un petit site, c'est pas pour faire la promotion du site, attention, pas du tout, il y en a plein qui font la même chose. Vous allez sur HostingTrack, vous tapez le nom du logiciel, qui est français, etc., et vous voyez qu'effectivement, ils sont chez Amazon AWS. Vous prenez, voilà, pas toujours citer les mêmes, et on va prendre par exemple des clouds US, ici, vous voyez, vous avez Alan, bon, Asana, c'est pas européen, donc à la limite, c'est pas très grave, mais Atio, Brevo, Cegid, ClickUp, Dext, Dust, EBPI, il y en a plein, Fintesis, Indie, vous seriez étonné. Et en fait, même si l'éditeur de solutions en fait, héberge ces données géographiquement en Europe, il est quand même soumis au Cloud Act et à la loi sur l'extraterritorialité des données. Donc vos données peuvent être, sur décision aux États-Unis, peuvent être récupérées pour X ou Y raison. Mais ce n'est pas ça le plus gros risque, parce que ça ne va pas s'arrêter, vos données ne vont pas s'arrêter. À la limite, il y aura un défaut de confidentialité qui peut être inquiétant, certes, mais vous pourrez toujours continuer à travailler. Non, ce qui peut être grave, c'est en fonction de la tension géopolitique qui peut y avoir à un instant précis, qui peut obliger certains pays, certaines zones commerciales à interdire tout simplement l'import de services numériques. Et c'est pas de la science-fiction, hein. On le voit avec les tensions géopolitiques qu'il peut y avoir entre les États-Unis et l'Europe, pas forcément des tensions géopolitiques, mais voilà, des tensions commerciales plutôt, où vous pouvez avoir l'Europe qui brandit la carte du bouclier anti-coercition, dont on a déjà parlé sur la chaîne, pour dire « arrêtez vos bêtises avec les frais de douane, nous on va interdire certains services de rentrée ». Alors certains services, on pense souvent à des produits physiques qui sont arrêtés à la douane, mais vous pouvez très bien avoir une douane virtuelle numérique qui dit, et c'était pas un député européen, mais un représentant de la Commission européenne qui a dit le bouclier anti-coercition pourrait nous amener à couper certains services états-uniens directement. Donc vous arrivez un matin, tous les outils que vous avez choisis ne fonctionnent plus parce que hébergés sur des data centers états-uniens, alors que vous pensiez avoir fait le choix du chauvinisme et pas de la souveraineté, parce qu'il faut faire attention à ne pas confondre chauvinisme et souveraineté. C'est pas parce que vous choisissez un SaaS commercial français que derrière vous êtes souverain numériquement. Il faut aller vérifier l'hébergement. Et attention, il y a des pièges en ce moment en plus. Vous avez certaines entreprises qui créent des clouds dits souverains avec une co-entreprise. Par exemple, vous avez S3NS avec des co-entreprises, avec des hyperscalers, avec des entités américaines. Ils sont souverains de façon juridique parce que l'extraterritorialité ne s'applique plus, et encore qu'il faudrait vérifier. On n'a jamais eu de cas et de précédent, donc tant qu'il n'y a pas de précédent, on ne peut pas véritablement le savoir. Donc peut-être qu'on va se prémunir du Cloud Act, mais ce que vous aurez en plus et ce que vous aurez gagné, ce sera de la dépendance technologique. S3NS, ici, qui se dit comme un cloud de confiance fait par Thales, est dépendant technologiquement de Google Cloud Platform, qui est Google Cloud Partner. Donc certes, c'est une entreprise à 90x% détenue par Thales, qui est située en France, mais qui dépend technologiquement d'un éditeur qui contrôle technologiquement, encore une fois. Donc on revient à la dépendance technologique qu'on avait derrière. On a gagné l'indépendance souveraine juridique de l'extraterritorialité. On a perdu l'indépendance technologique. Donc vous avez S3NS et Thales et Google Cloud Platform. Et vous avez Bleu qui est Capgemini Orange avec Microsoft Azure. Et qui sont en ce moment en train de se targuer d'être des clouds souverains et d'aller même participer à certains colloques. Il y en a même un dans quelques jours auquel ils participent sur la souveraineté numérique. Donc voilà, certes, la souveraineté numérique, il n'y a pas vraiment de définition précise ni légale, finalement, il n'y a pas de terme légal pour ça, dites-moi si je me trompe en commentaire. Par contre, il y a la dépendance technologique, c'est quand même dommage, je trouve. Donc maintenant qu'on a dit ça et qu'on a été un peu anxiogène pendant quelques minutes, je m'en excuse. On va trouver des solutions, et des solutions, il en existe. Des solutions qui arrivent à résoudre chacun des quatre facteurs d'exposition au risque dont on a parlé. Commercial, technologique, contractuelle et souveraine. C'est pas bien accordé. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs paliers. Certaines solutions ne résolvent qu'une partie, d'autres résolvent toutes les parties. Donc ici, on va arrêter le suspense et on va voir le premier palier qu'on va pouvoir mettre en place. C'est la souveraineté des données. Plutôt que de choisir des outils qui hébergent sur des clouds non souverains, on va s'atteler à vérifier que les données sont bien hébergées sur OVH, Scaleway, Clever Cloud, que sais-je, il y en a plein, Octopus. Et on va donc résoudre le premier facteur de risque ici, qui est la souveraineté. Mais c'est pas parfait. Si vous prenez par exemple des hébergeurs, on va mettre EU, donc ça veut dire la note qui est plutôt la note B, donc qui sont des éditeurs européens qui hébergent chez des Européens, ACD, Axonote, etc. Vous résolvez la partie souveraineté, mais vous avez toujours les autres facteurs de risque. Commercial, augmentation de prix, arrêt d'un logiciel. Technologique, vous mettez beaucoup de choses au même endroit. Contractuel, ça peut être coupé parce que ça reste du SaaS. Donc, ok, c'est déjà mieux, hein, on va pas cracher dans la soupe, c'est bien de faire par étapes, c'est bien d'être conscient qu'il existe plusieurs paliers, c'est bien, encore une fois, je le répète, que chacun positionne le curseur sur sa zone de tolérance au risque aussi, hein, mais il faut en être conscient. Mais c'est pas parfait. Ce que vous pouvez faire derrière et qui va tout résoudre d'un coup, même si ça va rajouter des choses, et on va pas l'exclure, on va pas juste balayer comme ça en disant que c'est parfait et que ça ne crée pas d'effet de bord par ailleurs, on va parler de tout. Mais ce qui peut résoudre tous les quatre points d'un coup, tout simplement, c'est de partir sur des solutions libre et open source couplé à un hébergement souverain. Et là, on a le meilleur des deux mondes, puisque on a le meilleur même des quatre mondes. Regardez, logiciel libre et souverain. Est-ce qu'ils peuvent augmenter les prix ? Non. Qui dit libre et souverain et open source, pardon, dit gratuit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller soutenir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller donner de l'argent. Mais on le fait de façon proactive. On ne subit pas l'augmentation d'un éditeur. Donc, hop, ici, risques commerciaux terminés. Risque technologique, un logiciel derrière avec un lien de dépendance, à partir du moment où on a supprimé le risque commercial, on a plus de facilité à accepter le risque technologique. Souvenons-nous au début ici, c'était dangereux de tout mettre au même endroit parce que derrière on pouvait subir des augmentations de prix. Donc il y avait une dépendance entre les deux facteurs de risque. Là derrière, le risque technologique est effacé par le simple fait d'avoir effacé derrière le risque commercial. Mais tant qu'à faire, ça c'est un parti pris. Pourquoi ne pas essayer d'étaler aussi le risque en prenant des pure players, en prenant des logiciels leaders dans leur domaine avec un usage en particulier ? Donc plutôt que prendre un logiciel qui fait tout, prenez le meilleur de chaque. Bon, ça c'est des choix derrière qui sont plus avec des opinions personnel, mais vous réduisez complètement le risque. Si vous arrivez déjà à partir sur du logiciel libre et que vous facilitez la vie de vos équipes avec des solutions qui font tout et que de toute façon c'est pas très grave parce que derrière vous n'avez plus de risque commercial, c'est ok. Regardez derrière le risque contractuel ici. Est-ce que vous pouvez arriver un matin et quelqu'un vienne vous couper l'accès ? Non, vous êtes chez vous. Même si vous louez chez un provider, il y a peu de chances que le provider, sans décision juridique légale, et c'est bien ça tout le sujet, hein, s'il y a une décision juridique, de toute façon, que le serveur soit chez vous, quelqu'un peut rentrer et dire avec une ordonnance, que sais-je, bah, on arrête les serveurs. Donc c'est la même chose chez des hébergeurs. Ici, j'ai mis la petite maison, vous pouvez très bien aussi héberger ces données-là sur vos propres serveurs. Hein. Parenthèse, il n'y a pas si longtemps que ça, on arrivait dans les entreprises, elles avaient des serveurs, dans des salles ventilées, avec des backups, etc. Avec l'avènement du SaaS, ça a de plus en plus disparu, et on s'est de plus en plus exposé à ces risques-là. Voilà. Il ne faut pas y revenir à tout prix, hein. Vous avez maintenant des hébergeurs qui font du très bon travail, des hébergeurs éthiques derrière, donc... Personne ne peut arriver un matin et vous couper votre serveur, à part vous-même. Donc vous réduisez l'exposition au risque contractuel derrière aussi. Si vos données sont chez vous sur des logiciels libres, personne ne peut venir vous embêter là-dessus. Hein, si vous avez une décision juridique, bah, quelque chose se passera, mais au moins ce sera officiel. Et donc la souveraineté, de toute façon, on l'a déjà expliqué, vous la résolvez aussi, même si vous prenez un SaaS commercial, par le simple fait de vérifier que c'est bien hébergé sur des clouds souverains. Donc ici, vous voyez qu'avec... deux opérations qui ne sont pas anodines non plus, on va en parler après, hein, des effets de bord, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Eh bien, avec deux choix derrière où vous changez profondément les choses, vous arrivez à réduire l'exposition totale au risque. Attention à quelques pièges tout de même. Quand vous faites un choix de logiciel open source, vérifiez s'il n'y a pas des dépendances. Je vais prendre le cas d'un logiciel qui s'appelle Ghost, que j'utilisais pour mon site internet. Eh bien, Ghost oblige d'utiliser un provider américain, SaaS qui s'appelle Mailgun pour pouvoir envoyer ses emails. Donc, même si en frontal vous avez fait le travail, vous avez hébergé votre Ghost ici sur votre serveur, vous avez pris la version communautaire, vous avez la main dessus, c'est de la licence MIT si je ne dis pas de bêtises, eh bien vous voyez qu'au niveau de la documentation, vous avez une dépendance technologique par rebond qui se fait vis-à-vis de Mailgun. Bon, il faut vérifier ça, c'est pas toujours simple. Et en plus de ça, hein, c'est pas forcément des solutions parfaites parce que pour le commun des utilisateurs, le commun des petites entreprises, on n'a plus maintenant, de nos jours avec l'avènement du SaaS justement, d'informaticiens à demeure. Donc il va falloir trouver quelqu'un qui a déjà un bon data center, quelqu'un qui vient vous installer les outils, qui vient les maintenir. On appelle ça des infogéreurs, des gens qui vont manager des clouds. Et là, il y en a plusieurs. Hein. Je vais saluer au passage, c'est pas pour leur faire de la pub, je vais saluer Evolix, je vais saluer Beerstack, je vais saluer, alors Octopus, c'est plus un data center, mais je crois qu'ils font de l'infogérance aussi. Voilà, j'en salue quelques-uns. C'est loin d'être représentatif de tout le tissu commercial qui existe en France. Venez mettre en commentaire vos références d'infogéreurs, de spécialistes informatiques qui peuvent vous accompagner sur ce sujet-là, des intégrateurs même OpenDSI, que je salue aussi au passage. Voilà, n'hésitez pas à venir mettre en commentaire, même si c'est pour faire de l'autopromotion, mettez les services que vous proposez, ça peut aider les gens. Et voilà. Ça veut dire qu'en fait, on revient aussi à des effets de bord qui font que il faudra l'installer, il faudra le maintenir, il faudra le sauvegarder, puisque vous redevenez et vous prenez votre indépendance numérique. Et donc, qui dit prendre son indépendance numérique dit aussi s'occuper de son numérique, finalement. Mais pour ça, vous avez des entreprises, encore une fois, qui peuvent vous aider. Donc n'hésitez pas aussi à rejoindre le petit serveur Matrix qu'on a créé. Un serveur Matrix, c'est un équivalent de Discord ou de Slack, mais libre et open source, sur lequel on peut discuter. On retrouve des gens qui sont en train de faire ça dans leurs entreprises. On trouve des experts qui peuvent aider aussi. On peut discuter, challenger les choix. Donc je mets le lien en description pour y accéder. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Je partage sur cette chaîne pas mal d'alternatives open source aux logiciels commerciaux. On fait des reviews. D'ailleurs, je vous envoie vers une review, tiens, par exemple, de Nextcloud que j'ai fait, qui est un bon exemple, qui est l'exemple même d'une alternative à une suite numérique libre et open source qu'on peut utiliser en entreprise pour remplacer des Office 365, des Google Workspace. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.